Radio Kapi.
Jocelyne Moussaou à la présentation.
Cinq morts, des maisons inondées et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan des pluies à Bukavu dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi. Dans le Haut-Katanga, 6 personnes interpellées en possession de 3 lionceaux. Le week-end, sur la route Kasenga, à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi, ces suspects sont déférés au parquet près le tribunal de grande instance de Lubumbashi pour faire la lumière sur cette affaire. Docteur Florent Gondou est notre invité, le directeur national du programme de l'élimination de la lèpre, alerte sur la croissance du nombre des personnes atteintes par cette maladie à travers le pays et appelle à une forte mobilisation pour l'éradiquer d'ici 2030. Bonsoir à tous. La pluie vient de tuer au sud Kivu. 5 morts au total. C'est le bilan des pluies qui se sont abattues à Bukavu dans la nuit de dimanche à ce lundi. À cela, il faut ajouter des inondations des maisons et plusieurs dégâts matériels. Ronéline Tibonera pour les détails.
C'est à Bolo 3 dans la commune de Kadutu que le bilan le plus lourd a été enregistré. Selon le chef de quartier Mossala, l'incident s'est produit aux alentours d'une heure du matin. Patrick Lubala rapporte que les victimes ont été surprises par l'effondrement d'un mur. 4 personnes ont perdu la vie sur les coups, tandis qu'une 5e, évacuée en urgence vers une structure sanitaire, a succombé à ses blessures ce matin.
Une pluie torrentielle qui s'est abattue sur toute l'étendue de la ville de Bukavu n'a pas épargné les quartiers Mossala en dégâts matériels et humains. C'est l'avenue Bolo 3 où est mis des soutènements. S'est écroulé sur une maison causant la mort de 5 personnes dans une même famille de Madame Simire Zagabe Bijou, veuve de son état et locataire de Monsieur Dion Kouale sur Avenue Bolo 3. Madame Bijou est morte sur les champs avec ses 4 enfants. Nous sensibilisons notre population à être vigilante face aux dégâts, des éboulements et des incendies qui frappent notre quartier.
Les éboulements des terres sont fréquents dans la ville de Bukavu, particulièrement meurtriers dans les zones où les normes urbanistiques ne sont pas respectées. Plusieurs sessions de réflexion ont été organisées afin de trouver des solutions durables à cette problématique, mais sans résultat concret. Du 26 au 29 décembre 2023, au moins 21 personnes avaient perdu la vie lors des inondations dans cette même entité. Des urbanistes proposent l'élargissement de cette ville vers d'autres entités, mais ces propositions attendent encore l'accomplissement du gouvernement.
À Kinshasa, l'eau ne coule pas des robinets dans certains quartiers. Depuis ce lundi matin, informe la Régie des eaux dans un message parvenu à Radio Okapi. Il s'agit des quartiers Ozone, Kamunganga, Gramalik, Météo, Mpunda, Delvaux, UPN, Sangamamba, Kingu, Pigeon, Macampagne, Montfleury, Jamaïque et Nganda. Cette interruption concerne également les communes de Bandalungwa, Kintambo, Ngiringiri et une partie de Selembao. Et pour cause, la poursuite des travaux du module 3 de son usine située au quartier Ozone dans la commune de Ngalima. D'autres détails avec vous, Jude Mister Bilanda.
La Régie des eaux indique qu'elle veut mettre ses modules sous tension électrique pour la mise en marche des pompes et autres machines. Deux nouveaux transformateurs seront installés à partir de ce lundi 11 août. Et pour que ce travail s'efface, la Régie des eaux prévoit une interruption du courant électrique à partir de l'usine jusqu'au mardi matin. Ces travaux dureront environ un jour, mais il faudra quelques heures additionnelles avant que l'usine ne soit mise en service et ne permette à l'eau de voyager dans tous les réseaux. La Régie des eaux renseigne qu'elle a pris des dispositions pour donner de l'eau par camion-citerne sur commande. Elle demande aux abonnés d'avoir des stocks suffisants pour répondre à leurs besoins. Elle rassure qu'elle fera de tout son mieux pour terminer les travaux à temps et rétablir la situation le plus tôt possible.
La lutte contre le choléra s'accélère à Kindu. Pour preuve, la zone de santé de cette ville vient de lancer une double opération, à savoir la chloration des sources d'eau et la désinfection des ménages frappés par l'épidémie de choléra. Objectif, couper la chaîne de transmission de cette maladie, comme le signale le ministre provincial de la Santé qui a lancé cette opération aux côtés de ses partenaires techniques et financiers dont l'OMS et l'UNICEF à partir de la source Pamplela. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Pour les médecins chefs des zones de Kindu, l'opération d'exploration d'eau consiste à couper la chaîne de transmission des choléra. Docteur Salin Djoumaïni Farani.
Nous mettons vraiment les chlorateurs qui ont été formés par la zone de santé, les gens qui sont expérimentés, pour que ces gens commencent déjà à traiter de l'eau que les gens doivent quand même commencer à boire.
Les chlorateurs demandent à toute la communauté de ne pas rentrer avec l'eau sans être chlorée. Ibrahim Kibundi Labertan.
Nous recommandons aux mamans de chlorer cette eau. Il faut que chaque maman qui arrive avec son bidon, il faudrait qu'on mette des chlores à l'intérieur de son bidon.
Bien que l'eau est chlorée, la population de Pampela plaide pour la construction de leur source d'eau. Suzanne Amissi.
Nous remercions parce qu'on vient de mettre nos médicaments. Mais notre plaidoyer, c'est de nous construire notre source parce que dans cette contrée, cette source nous sert de tout.
Conscient, les ministres intérimaires de la Santé promet de saisir l'autorité provinciale, signalant que la province d'Imanema notifie déjà plus de 4000 cas avec une centaine de décès. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La santé est également concernée dans le cadre du processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Plus de 600 millions de dollars seront mis à la disposition de plusieurs pays de la région pour la production, notamment des vaccins et des médicaments. Cette annonce a été faite hier dimanche par le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC. On écoute Dr Jean Kaseya qui s'exprimait sur la chaîne nationale dans cet extrait proposé par Alain Hiroum.
Je vais aussi annoncer que dans le cadre du programme de la paix entre la RDC et le Rwanda, nous avons inscrit un volet important de santé publique pour l'investissement en RDC et dans certains pays régionaux des mécanismes pour produire les moustiquaires, les vaccins, les médicaments. Ce sera un investissement de plus de 600 millions de dollars qui sera garanti par DFC qui est la banque des États-Unis pour les investissements privés. Donc, nous sommes vraiment sur tous les champs. Le pays a fait un bon tri qualitatif et je tiens à remercier le professeur Muyembe, que j'ai même nommé comme Special Advisor du DG d'Afrique à CDC, et toute son équipe, professeur Mbale et autres. Aujourd'hui, la voix de l'Afrique dans la recherche est très importante. Nous avons plus de 40 projets de recherche et plus de la moitié de ces projets sont menés par aussi les collègues de la RDC, de l'INRB. Je peux aussi garantir que c'est important que le gouvernement mette aussi des fonds dans la recherche, puisque nous ne pouvons venir continuer à appuyer la recherche, mais on a besoin de voir que cette recherche fasse un bond.
Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où 6 personnes ont été interpellées le week-end en possession de 3 lionceaux sur la route Kasenga à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi. Ces suspects sont déférés au parquet près les tribunaux de grande instance de Lubumbashi pour faire la lumière sur cette affaire. En attendant, les lionceaux sont confiés aux zoos de Lubumbashi. Paul Munanga nous fait le point.
D'après le médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, contacté par Radio Okapi, ces lionceaux blancs ne sont pas de la RDC. Ils proviennent de l'extérieur du pays. Docteur Jean-Claude Binemo révèle qu'en RDC, il n'y a pas de lions blancs. La justice met à la disposition du zoo de Lubumbashi ces 3 lionceaux pour les nourrir, le temps de faire la lumière sur cette affaire. C'est notamment savoir si les personnes arrêtées détiennent des documents leur autorisant la détention et le transport de ces animaux. Docteur Jean-Claude Binemont, médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, souligne en outre que les lions est un animal protégé et seule la détention du permis CITES légalise le commerce de cette espèce. Ce permis est un document essentiel pour le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Il précise que toute personne qui veut détenir ou importer un lion en RDC doit constituer un dossier et répondre à toutes les conditions y afférentes. La personne va obtenir le permis CITES auprès de l'ICSN. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu où 9 otages, dont des femmes et des enfants, ont été libérés par les forces conjointes des armées congolaises FARDC et ougandaises UPDF après l'embuscade tendue samedi dernier à une voiture de transport par les rebelles ADF a laissé un village situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Beni sur l'axe Eringeti-Kainama dans le territoire de Beni. 7 autres passagers restent encore détenus par les assaillants, toujours poursuivis par les forces conjointes dont la forêt. Selon la société civile de Kainama, il est urgent de renforcer renforcer la sécurité sur ce tronçon qui relie le Nord Kivu à l'Ituri, surtout après la fermeture de l'axe Luna-Komanda en raison de l'insécurité. Bienfait Baraka, conseiller de cette structure, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous déplorons cette nouvelle embuscade enregistrée à l'essai. C'est sur le tronçon Eringeti-Kainama. Cette partie est contrôlée par nos forces loyalistes. Nous demandons au service de sécurité de multiplier les stratégies pour mettre fin à ces attaques et embuscades enregistrées sur la route Eringeti-Kainama. Nous craignons que cette route, ce tronçon soit fermé comme celle de Luna-Komanda suite à ces attaques. Pourtant, elle relie deux provinces, celle du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est-à-dire, on doit mettre beaucoup d'attention particulière pour mettre fin à ces embuscades, pour ne pas chaque fois endeuiller la population chaque jour. La voiture provenait de Bunia pour Butembo. Nous félicitons parce qu'on a libéré 9 personnes, y compris les écoliers qui provenaient de Bunia pour Butembo.
Nous n'avons pas encore obtenu la réaction des FARDC à propos de cette embuscade. Restons au Nord Kivu. La ville de Goma accueille depuis ce lundi la deuxième édition de la conférence et concours de qualité de café congolais. Une cinquantaine de producteurs et exportateurs du café venus du Nord et du Sud Kivu ainsi que leurs partenaires régionaux et internationaux y prennent part. Pendant les 2 jours, ces acteurs vont débattre sur les thèmes la résilience du secteur du café congolais face aux défis sécuritaires et socio-économiques de la région. Organisée par la plateforme Congo Agri en partenariat avec African Coffee Connect. L'objectif est d'arriver à promouvoir le café congolais. C'est ce que dit ici Ghislain Mupenzi Kamondo. Il est le directeur exécutif de Congo Agri.
D'abord, Best of Congo, qui s'organise chaque année, des conférences et concours de qualité de café congolais. Ça s'organise souvent à Goma. L'année passée, c'était à Londres. Alors, c'est une conférence qui réunit toutes les coopératives du Nord et du Sud Kivu pour qu'ils puissent proposer leurs micro-lots qui sont dégustés dans des jurys et après on propose le prix, ce qu'on appelle la vente aux enchères. Maintenant, cette année a un accent très particulier parce que cette conférence s'organise à un moment de conflit et les producteurs vraiment n'avaient pas espoir, surtout que la guerre est arrivée juste au moment du lancement de la campagne agricole. Et du coup, nous avions choisi le thème de cette année comme la résilience du secteur du café face aux conflits sécuritaires, socio-économiques et Best of Congo comme une voie de sauvetage dans une zone profondément troublée. C'était en réalité donner de l'espoir aux producteurs qui, au début de la campagne, ne pensaient même pas présenter sur le marché, même un seul kilo.
Dans la province de Lomami, reprise le week-end du trafic sur le pont Lui-Lou qui relie la RN1, la localité de Luputa, chef-lieu du territoire de Lui-Lou, à la ville ferroviaire de Mouneditou à 132 km de Mbujimayi. La cérémonie de lancement de la reprise de trafic a été présidée par le gouverneur de province en présence du président de l'Assemblée provinciale Patrick Kilolo, des députés provinciaux, des membres du gouvernement et plusieurs autres délégations. Des explications dans ce reportage d'Esther Ndalafina, rendu par Alain Irung.
Cette nouvelle infrastructure routière d'une capacité de 40 tonnes et d'une longueur de 60 mètres et de 4 mètres de largeur. C'est depuis près de 6 mois que le passage des piétons et des véhicules ont été interdits sur ce pont à cause de sa vétusté et des risques qu'il présentait. Le maître d'ouvrage, l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, affirme que 45 jours ont suffi pour procéder au remplacement de l'ancien pont Bélier par ce pont Matière. Le gouverneur de la province de Lomami, maître Iron Van Kalombo Musoko, a à cet effet sensibilisé les usagers de la route au respect de tonnage. Signalons que le pont Lui-Lou facilite le passage des gros camions en provenance des provinces de Lualaba, Okatanga et Olomami vers les provinces de Lomami, Kasaï Oriental et vice-versa.
Actualité internationale. Au Mali, les arrestations se sont poursuivies dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi dans les rangs de l'armée. Au moins une cinquantaine de militaires, dont des hauts gradés, ont été arrêtés en 4 jours pour tentative de déstabilisation de la transition. La junte n'a toujours pas officiellement communiqué sur l'affaire. Au Niger, une cinquantaine de migrants ont été secourus par une patrouille militaire en plein désert près de la frontière libyenne dans le nord du Niger la semaine dernière, mais l'armée ne l'a annoncé qu'hier dimanche. Ces migrants s'est dirigé vers la Libye, point de passage vers l'Europe, quand leur véhicule est tombé en panne. Leurs nationalités n'ont pas été précisées.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur national du programme de l'élimination de la lèpre. Docteur Florent Ngondou Lobuta confirme que toutes les provinces notifient des cas de lèpre et il faut une forte mobilisation pour éradiquer cette maladie au pays d'ici 2030, comme souhaite l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Docteur Florent Ngondou Lobuta s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Florent Ngondou, bonjour.
Bonjour madame.
Docteur, quelle est la situation aujourd'hui de la lèpre dans notre pays?
Ok, merci beaucoup madame pour la question. D'emblée de jeu, je vous dirais que la situation de la lèpre est encore préoccupante au niveau pays. Les chiffres que nous avons eus en 2024, les chiffres publiés par l'OMS, nous renseignent 3945 nouveaux cas de lèpre. Ça c'est pour l'ensemble du pays. Et quand on entre au niveau des provinces, donc toutes les provinces sont concernées. Il y a effectivement 9 ou 10 provinces qui ont beaucoup de cas. Mais les autres arrivent aussi avec un peu de cas.
Aujourd'hui, vous êtes au Maniema. Quelle est la situation de la lèpre ici?
Oui, Maniema, il faut dire que la situation de la lèpre, on peut dire qu'elle est stable. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 5 ans. Maniema dépiste environ une cinquantaine de cas. Et ça aussi, ce n'est pas vraiment la vraie situation parce qu'il y a d'autres zones de santé où les activités sont presque enveilleuses. Par exemple, il y a eu un petit projet mené en 2020 qui était un projet de lutte intégrée lèpre, pian et brûlé. Et dans ce projet-là, on a vu que le dépistage de la lèpre est augmenté. Mais je suis sûr que si on élargit la prise en charge dans les 18 zones de santé, nous pouvons arriver à avoir la vraie situation de la lèpre dans les Maniema.
C'est-à-dire, c'est confirmé que la lèpre existe encore dans la province du Maniema. Vous-même, vous venez de citer que vous avez mené un projet de la lutte intégrée des maladies de la peau. Alors, c'était dans des zones de santé, dont la zone de santé des Kasongo et des Lusangi. Des ans après, alors, qu'est-ce que ça va suivre parce que ça mérite d'être élargi?
Tout à fait. Cette lutte intégrée-là, après 2 ans de mise en œuvre, ça a montré que c'est possible qu'on puisse mener cette lutte. C'est comme ça que le partenaire, la mission contre la lèpre qui appuie ces projets, a mobilisé encore des fonds pour étendre. Il y avait que le Kasongo et le Lusangi qui étaient concernés. Maintenant, on va avoir d'autres zones de santé, je crois 5 ou 6 qui seront aussi concernées par l'extension de ces projets-là.
Vous avez la recommandation de l'OMS d'ici 2030 qui est élimination de cette maladie au pays. Est-ce que vous pensez que ce sera possible?
Bon, c'est difficile vraiment de répondre à cette question, mais nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse y arriver. Mais pour y arriver, en tout cas, ça demande la conjugaison de nous tous. Parce que vous connaissez, actuellement, nous sommes dans un contexte où il y a la réduction des moyens pour ça. Alors, il faut faire des efforts pour qu'on puisse trouver, par exemple, la lutte contre la lèpre. Les médicaments sont là, mais ce qui nous manque, c'est les malades qui sont cachés au niveau de la communauté. Il faut qu'on les recherche, on les traite et puis on peut espérer diminuer l'ampleur de cette maladie-là.
Avec le moyen, vous avez des défis. Aujourd'hui, là, les moyens sont réduits. Est-ce que ça ne sera pas alors l'occasion que cette maladie se propage davantage dans la communauté?
Mais effectivement, si nos gouvernants ne prennent pas en compte les problèmes actuels, eh bien, dans quelques années, on associera effectivement à une recrudescence des maladies qui étaient encore maîtrisées. C'est ici l'occasion de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on soit sensible à mobiliser les fonds. Nous devons former les acteurs, travailler avec la communauté pour qu'on puisse retrouver ces malades, les traiter et puis les mettre en traitement. Là, on pourra espérer. Mais si le gouvernement reste inactif à tous les niveaux, ça ne sera pas possible.
La lèpre est classée déjà dans la catégorie des maladies tropicales négligées. Il y a certains qui se cachent avec cette maladie dans la communauté. Alors, quel serait votre appel aux membres de la communauté?
Voilà. En fait, la conception de la lèpre a très évolué. Quand on remonte les années passées, il n'y avait pas de médicaments efficaces pour lutter contre cette maladie. C'est comme ça qu'on isolait les personnes qui sont touchées par cette maladie dans des léproseries. Actuellement, il n'y en a plus parce qu'on a des médicaments qui sont efficaces pour rompre la chaîne de transmission. C'est comme ça que nous disons à la population, s'il y a quelqu'un qui a une tache claire sur la peau, c'est un motif d'aller se faire consulter au niveau du centre de santé. Et là, les médicaments sont là. Si c'est la lèpre, on va traiter la personne et la personne sera guérie. Donc la lèpre n'est plus comme à l'époque où les gens définissaient la lèpre comme une maladie incurable. Non, maintenant, la lèpre s'est guérie grâce aux médicaments que nous avons.
Docteur Florent Ngondo, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Il a été mis en onde par Pierre Diassinois, coordonné par Richard Junior Kamunga, sous la supervision d'Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.